On va se poser une question fondamentale aujourd'hui. Comment est-ce qu'une société s'organise pour éviter que le pouvoir devienne absolu et abusif?
C'est une question qui paraît un peu théorique, mais en fait, elle touche au cœur de nos démocraties.
Exactement. Ce n'est pas juste une histoire de dictature lointaine, ça concerne la santé, la solidité de nos propres systèmes.
Et c'est justement le point de départ de l'analyse de Julien Lecomte qu'on explore, qui s'intitule « De l'importance des contre-pouvoirs ». L'idée, c'est de décortiquer un peu ces mécanismes, ces fameux garde-fous.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur y commence par écarter la réponse la plus évidente.
Ah oui ?
Laquelle ?
L'idée que la solution, ce serait de donner le plein pouvoir au peuple, pour lui, c'est plus compliqué que ça.
Il part du constat que, oui, le pouvoir absolu corrompt. Mais il dit que concentrer ce même pouvoir, même dans les mains du peuple, ce n'est pas une garantie contre les abus.
Donc la question n'est pas vraiment qui a le pouvoir.
C'est ça. La question, c'est plutôt comment on s'assure qu'il n'est jamais total. Comment on le contrôle, comment on le fait circuler.
C'est un point de départ fascinant. Ça va un peu à l'encontre de l'idée que le suffrage universel, c'est la solution à tout.
Exactement. L'article suggère que même la majorité peut se tromper. Elle peut écraser des minorités ou pire, se faire manipuler.
Alors, par où on commence pour construire cette machine complexe qui empêche le pouvoir de dérailler?
On commence par les fondations. Le grand classique, l'idée qui a vraiment structuré toutes les démocraties modernes.
La séparation des pouvoirs.
La séparation des pouvoirs, on en revient toujours à Montesquieu.
C'est fou de voir à quel point cette idée, vieille de plusieurs siècles, reste le point de départ de tout, non?
Oui, et la source cite sa phrase la plus célèbre de l'esprit des lois. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
Le pouvoir arrête le pouvoir.
Ce qui est génial, c'est que le but, ce n'est pas l'harmonie. C'est une sorte de conflit organisé.
Un conflit organisé, j'aime bien cette formule.
Le génie de la chose, c'est de forcer les pouvoirs à se surveiller et, en quelque sorte, à se neutraliser en permanence.
Alors, pour un petit rappel, on a les trois branches. Le législatif, donc le Parlement, qui fait les lois.
C'est ça.
L'exécutif, le gouvernement, qui les met en œuvre.
Qui les applique, oui.
Et enfin, le judiciaire, les tribunaux, qui s'assurent que tout le monde respecte ses lois. Mais concrètement, comment est-ce qu'ils s'arrêtent les uns les autres?
Le texte donne des exemples très clairs. L'exécutif, le président par exemple, peut dissoudre l'Assemblée. C'est une arme redoutable.
D'accord.
Mais en retour, cette même Assemblée peut faire tomber le gouvernement, voire même destituer le président.
C'est une sorte d'équilibre de la terreur, quoi.
Un peu, oui. Une dissuasion politique mutuelle.
Ok. Donc, le législatif et l'exécutif se tiennent en respect. Mais qui arbitre ce match? Qu'est-ce qui les empêche de s'entendre tous les deux?
Et c'est là que le troisième acteur est crucial, le pouvoir judiciaire. C'est l'arbitre suprême.
Ah oui?
Une cour constitutionnelle peut annuler une loi, même si elle a été votée par le Parlement et signée par le gouvernement. Si la loi est contraire à la Constitution, c'est carton rouge.
C'est le principe de ne pas être jugé parti, en fait.
Voilà. On ne peut pas être celui qui écrit la règle, celui qui joue et celui qui arbitre en même temps. C'est la base.
D'accord. On a donc cette architecture institutionnelle, le squelette. Mais l'analyse de Lecomte dit que c'est loin d'être suffisant. Il introduit un autre acteur.
Le fameux quatrième pouvoir.
La presse, les médias.
Exactement. Un pouvoir qui, lui, n'est pas directement dans l'appareil d'État.
Et l'article insiste sur un point, son indépendance. Et il précise bien une double indépendance.
Absolument. La première, c'est la plus évidente, l'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Sinon, c'est de la propagande, pas de l'information.
Bien sûr.
Mais la deuxième est tout aussi vitale et peut-être plus menacée aujourd'hui. C'est l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs économiques.
C'est un vrai sujet, ça. Si une poignée de milliardaires possède presque tous les grands médias, où est le contre-pouvoir?
C'est toute la question. L'auteur souligne que la clé, ce n'est pas tant que chaque média soit parfaitement neutre, ce qui est quasi impossible.
Non, bien sûr.
Mais que le paysage médiatique soit diversifié. Qu'on ait des journaux de gauche, de droite, des indépendants. C'est cette polyphonie qui permet de se faire une opinion.
Et ce pouvoir médiatique, il a lui-même des garde-fous?
Oui, et c'est une nuance importante. Il y a des conseils de déontologie, par exemple. L'idée, c'est que ce chien de garde ne doit pas pouvoir mordre sans discernement. Et bien sûr, l'auteur précise que le concept de média a explosé. Aujourd'hui, il faut y mettre les réseaux sociaux, ce qui ouvre une toute autre discussion sur la régulation.
Une vraie boîte de Pandore. Ok, donc on a l'État, le média, mais si tout cet édifice commence à dériver?
L'analyse suggère que les fondations elles-mêmes sont un contre-pouvoir.
C'est ça. Au-delà des acteurs, il y a les règles du jeu. Et tout en haut, il y a la Constitution.
La règle suprême.
L'auteur la décrit comme une ancre. On ne peut pas la changer sur un coup de tête. Il faut des procédures très lourdes, des majorités spéciales.
C'est une bonne chose, ça protège les droits fondamentaux d'une humeur passagère.
Exactement. Et à cette protection interne s'ajoute une protection externe, le droit supranational.
Les traités internationaux. Oui, comme la Convention européenne des droits de l'homme. Un État qui l'a signé s'y engage. Et s'il ne respecte pas ses engagements, un citoyen peut se tourner vers une cour européenne.
C'est un filet de sécurité au-dessus de l'État, donc.
C'est l'idée.
On a les institutions, les médias, les grands textes et les gens dans tout ça. Le citoyen, il a d'autres outils que son bulletin de vote.
Heureusement, oui. L'article en liste plusieurs. Le premier, c'est la liberté d'expression.
Avec une nuance importante, si je me souviens bien.
Oui, et elle est capitale. La liberté d'expression, ce n'est pas le droit de tout dire sans conséquence. C'est le droit de ne pas être censuré a priori.
C'est-à-dire ?
L'État ne peut pas vous faire taire avant même que vous ayez parlé. La justice peut intervenir après s'il y a diffamation ou incitation à la haine, mais pas avant. La nuance est énorme.
D'accord, je vois.
Et à côté de ça, on a le droit de grève, de manifester. Tous ces outils permettent de peser sur le pouvoir en dehors des élections.
Et ces voix citoyennes, elles s'organisent ?
Oui, c'est un autre contre-pouvoir fondamental que le texte identifie. La société civile.
Les associations, les ONG, les syndicats.
C'est ça. L'article les voit comme des multiplicateurs de force. Seuls, on pèse peu. Mais au sein d'une ONG de défense de l'environnement, par exemple, on peut publier des rapports, organiser des manifs et même attaquer un gouvernement en justice.
C'est le contre-pouvoir citoyen en action.
Tout à fait.
Et il y en a un dernier, plus diffus, plus lent, mais que l'auteur semble considérer comme le plus important à long terme.
L'éducation. Pour lui, c'est très clair. Une école qui forme des citoyens et citoyennes critiques, capables d'analyser, de débattre, c'est un rempart démocratique fondamental.
À l'inverse, un régime autoritaire va toujours vouloir contrôler l'école.
Toujours. Pour formater les esprits, pour créer ce que l'auteur appelle des robots prêts à l'emploi, l'éducation, c'est apprendre comment penser, pas quoi penser.
Si on met tout ça ensemble, on a une sorte de toile d'araignée incroyablement complexe. Et c'est là que l'auteur aborde une idée qui peut paraître étrange, le cordon sanitaire.
C'est un des points les plus délicats. Il s'agit du refus, pour les partis démocratiques ou les médias, de s'allier ou de donner une tribune sans contradiction à des mouvements jugés extrémistes.
Attendez. Pour être tolérant, il faudrait être intolérant. Ça sonne un peu contradictoire, non ?
C'est le fameux paradoxe de la tolérance, théorisé par le philosophe Karl Popper.
Ok.
Si on donne une tolérance illimitée à l'intolérance, les intolérants finiront par s'en servir pour prendre le pouvoir et anéantir la tolérance.
Et réduire les tolérants au silence.
Voilà. Donc pour préserver une société ouverte, il faut, paradoxalement, refuser de tolérer l'intolérance.
Et concrètement, ça veut dire quoi ? Interdire ?
Pas forcément, mais ça peut vouloir dire qu'une grande chaîne de télé décide de ne pas donner une heure d'antenne en solo à quelqu'un qui prône ouvertement la haine, sans personne pour le contredire. Le but n'est pas de le faire taire, mais de ne pas participer à la normalisation d'idées qui, au final, tuerait le débat démocratique.
Mais le risque, ce n'est pas de renforcer ces groupes en les victimisant.
C'est toute la complexité du débat. C'est une ligne de crête. Il n'y a pas de réponse simple. Mais l'idée reste que la démocratie a le droit de se défendre.
Et cette idée de défense nous amène à la conclusion de l'analyse, qui est un appel à la vigilance. L'auteur insiste, rien de tout ça n'est jamais acquis.
C'est le fruit de lutte et ça peut s'éroder très vite. Et pour illustrer cette menace, souvent insidieuse, le texte termine sur deux citations très très fortes.
La première est de Michael Rosen. Je la lis, elle fait un peu froid dans le dos. « Le fascisme arrive comme votre ami. Il restera votre honneur, vous rendra fier, protégera votre maison. » Il n'entre pas en disant « Notre programme, c'est les milices et les déportations ».
Ce qui est terrible là-dedans, c'est la banalité du mal. Le danger, il ne se présente pas en criant son nom. Il arrive avec des promesses de sécurité, d'ordre, de fierté, des solutions simples à des problèmes complexes.
Et la deuxième citation d'Umberto Eco complète parfaitement ce tableau.
Oui, Eco écrit « L'urfascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes ». Le message de l'auteur, c'est que le danger, on ne le reconnaîtra peut-être pas tout de suite.
Il ne portera pas un vieil uniforme.
Non, il portera un costume moderne et respectable. Du coup, il faut être vigilant aux signaux faibles. Une attaque contre la justice, une loi qui restreint la presse. Chaque acte, pris seul, peut sembler mineur. Mais ensemble, c'est un symptôme.
Donc pour finir, l'auteur ne nous laisse pas avec un résumé, mais plutôt avec une dernière idée, presque une provocation, qui vient bousculer une de nos certitudes.
En effet, il revient à son point de départ en questionnant l'adage « le peuple a toujours raison ». Il demande « mais de quel peuple parle-t-on ? » Et il cite à nouveau Montesquieu.
Encore lui !
Qui disait que si le peuple est apte de demander des comptes, il n'est pas propre à gérer par lui-même.
C'est une affirmation qui peut choquer aujourd'hui. Ça va totalement à contre-courant de l'idée de la voix du peuple.
C'est très à contre-courant, mais si on suit la logique de toute l'analyse, ça prend son sens. Si la meilleure protection n'est pas de donner les pleins pouvoirs à une seule entité, même le peuple, mais de construire ce système complexe où le pouvoir arrête le pouvoir, ça change notre rôle de citoyen.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sur cette question laissée en suspens.
C'est ça. Si le cœur de nos libertés, c'est cette mécanique complexe de contre-pouvoir, alors quelle est notre responsabilité la plus importante? Est-ce que c'est juste de voter tous les 5 ans? Ou est-ce que notre rôle est bien plus actif? Est-ce qu'il ne consiste pas à participer, chacun à notre échelle, à la vitalité de tous ces contre-pouvoirs? La question qu'on nous pose, c'est dans ce grand mécanisme, sommes-nous des simples spectateurs ou des rouages essentiels?